Bonjour à tous, donc vous êtes avec Michel. Aujourd'hui, énième émission en partenariat avec l'association pour une constituante. Évidemment, le thème, ça sera les primaires, diverses et variées, la présidentielle, peut-être un petit peu de Trump aussi.
La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique.
www.pourunequonstituante.fr.
Voilà, un générique qui vieillit pas. Bonjour Antonin.
Bonjour Michel.
Voilà, Antonin fidèle au poste. Bonjour André Bellon.
Bonjour.
Qui est avec nous aujourd'hui. Et bonjour Paul Pescaire.
Bonjour à tous.
Fidèle chroniqueur de l'émission. Alors Antonin, aujourd'hui, forcément,
présidentielle. Beaucoup d'actualité. Entre la présidentielle française, les primaires à gauche, ma voix cassée, et la nomination de Trump enfin officielle, on a beaucoup à parcourir. Mais je pense qu'on va aussi passer du temps sur l'actualité de l'association. C'est pour ça qu'on a André qui est venu nous rejoindre aujourd'hui. Parce que beaucoup de choses vont se passer à la PUC.
À l'association pour une constituante, oui. Ok, la PUC, c'est son petit nom.
pour les amis.
Donc on commence par quoi? Peut-être la primaire, c'est l'actualité chaude.
Oh oui, c'est très chaud, oui. Personnellement, je n'ai pas été voté, mais...
Alors André.
Vous savez, les primaires... C'est une des nombreuses transpositions de la vie américaine sur le territoire français. Bon, comme on est encore dans cette période où ce qui est américain est beau. Bon. Vous savez, ça m'appelle toujours Astérix. C'est dans le combat des chefs, je crois. Il y a un type qui dit, c'est le chef d'un village, il s'appelle Appius Megalix, c'est amusant.
Et, c'est un collabo.
Et il dit, on va commencer par faire un aqueduc. Alors, un qui n'y a pas besoin, il y a une rivière qui traverse le village. Ça fait rien, on fera un aqueduc, on détournera la rivière, ça fait romain.
Bon, alors, le collabo absolu.
Bon, alors, on fait américain, bon, c'est très bien. En théorie, la présidentielle, c'est un rapport entre des individus, hommes ou femmes, et un peuple. Bon, là, en l'occurrence, ça devient les candidats des partis. Ça accentue encore plus le côté parti, qui, paraît-il, n'était pas vraiment dans la Constitution à l'origine. Enfin, il y avait les partis, mais ce n'était pas l'alpha et l'oméga de la vie publique. Bon.
Oui, parce que la belle alliance populaire, oui. Ça n'a pas trop marché, quoi.
Alors, cela étant, ça n'a pas trop marché. Enfin, je ne sais rien, puis au fond, ce n'est pas mon problème. Mais, dire, dans les circonstances où ils sont, avec un candidat issu de leur rang d'un côté, un autre issu de leur rang de l'autre, effectivement, ça supprime pas mal d'électeurs. Hein. Bon, ça c'est, apparemment, ça n'a pas frappé beaucoup de gens, mais ça me paraît une évidence arithmétique. Bon. Bon, cela étant, c'est une manière pour les partis d'essayer de régler leurs problèmes internes. Bon. Voilà. Cela étant, moi, je ne suis pas un fanat de ce genre d'exercice. Et nous avons sur notre site un certain nombre d'articles qui ne sont pas très enthousiastes vis-à-vis de cette manière de faire.
Bon, alors la primaire, c'est une chose. Après, la manière dont ça s'est passé... C'est étonnant aussi.
Une métastatistique plus que douteuse, apparemment, vu qu'ils ont fait quoi? Ils avaient 300 000 voix, ils avaient 300 000 voix qu'ils n'avaient pas encore décomptées, qu'ils ont rajoutées juste proportionnellement en fonction de ce qu'ils avaient déjà dépouillé à chacun des candidats. Je pense que ça n'avait pas changé grand chose au niveau des résultats finaux en termes de qui est le vainqueur, mais c'était assez grotesque.
Sur le résultat final, moi je pense que c'est. Ça doit correspondre en gros à la réalité. Le problème, ça a fait émerger quoi, cette histoire? Bon, d'abord que le Parti Socialiste est dans un état un peu délicat. C'est-à-dire que même sur le plan administratif, il n'arrive plus très bien à gérer. C'est pas une chose facile, une comptabilisation comme ça. Hein. Donc, il a eu du mal. Alors ensuite, l'interprétation qu'on peut faire... Est-ce que c'est pour favoriser quelqu'un? Est-ce qu'au contraire, c'est pour déconsidérer quelqu'un? Est-ce qu'il y en a qui jouent des rôles contre le clan? J'en sais rien, et tout ça est d'une confusion totale, mais c'est logique, c'est à l'image de la période.
Alors, est-ce qu'on peut pas dire quand même que le fait qu'Amon arrive en tête, c'est quand même un petit espoir de renouveau du Parti socialiste qui pourrait plus vraiment revenir vers des valeurs environnementales, vers peut-être un peu plus quand même de considération pour les classes défavorisées, un petit recentrage à gauche, justement.
Le mot, enfin, si on regardait les mots, c'est toujours important de regarder les mots les plus à la mode à une période, ils donnent une image de ce qui se passe. Bon, le mot renouveau, tout le monde l'a à la bouche. Alors, tous, prenez tous les candidats, ils sont tous les candidats du renouveau. Hein ? Même l'ineffable Macron, c'est le renouveau. Ce qui m'amuse d'ailleurs quand on voit qu'il y a à la fois Attali, Menck, Kouchner qui sont pour lui. Super le renouveau.
La prochaine.
Bon. Le strike. Pour le renouveau, c'est du renouveau. Ouais. Bon, cela étant, ils sont tous renouveaux, ça fait partie de l'exercice. Moi, je pense que la meilleure manière de faire du renouveau, ça vous surprendra pas, serait de dire il faut changer la règle du jeu.
Ah, alors, on va y venir, mais comment quand même. Alors, je vais quand même insister un petit coup. Alors, on va y venir. Mais quand même, André, donc vous, qui êtes quand même ancien député du Parti Socialiste, ouais. Qu'il avait quitté probablement pour un tas de désaccords, etc. Est-ce que le fait que la perspective que Hamon arrive en tête et puisse redonner une nouvelle orientation, ça vous fait pas plaisir quelque part au fond?
Alors d'une part, non seulement je l'ai quitté, mais je me suis présenté contre lui, hein, sous l'étiquette gauche républicaine. Et pour la petite histoire, j'ai même battu le PS, j'ai dû faire 12,5%, je crois, alors que le PS faisait... Cela étant, on a été battus tous les deux, mais ça, on le savait d'avance. Voilà. Mais enfin, il y a une manière d'affirmer des choses. C'est une nécessité de la vie. Sinon, bon... Alors ensuite, Hamon, par rapport au PS. Moi, quand j'ai vu ce résultat, qui ne m'a pas obligatoirement surpris, bon, parce que... Je veux dire, le thème, il faut être sérieux, bon, ça va. On connaît, ça a donné les gouvernements successifs qu'on a, qui ne sont pas obligatoirement sérieux. Hein. Moi, j'ai pris ça comme un geste de survie. Le PS, il veut survivre, il a trouvé sa manière de survivre dans un retour à ses fondamentaux. Quoi. Bon, donc, de ce point de vue, effectivement, il y a une certaine logique à cela. Donc c'est pas antipathique en soi. Bon, c'est même plutôt un geste, une espèce de clin d'œil à l'histoire. Bon. En même temps, mais n'y voyez pas une manière de remettre toujours sur le tapis nos obsessions à nous. Je pense que la logique de ce genre d'attitude, c'est quand même de dire bon ben il y a un système qui va plus. Bon. Et donc quelque part. Il faut porter la conséquence naturelle de ce genre d'événement. Mais en soi, oui, effectivement. Moi, je conçois que les gens qui sont à gauche soient plus tentés par apparemment que par Valls. Oui, ça. oui.
Bon, j'ai quand même réussi à lui faire dire.
avec un boulet tel que être Premier ministre pendant de Hollande, son Valls était mal parti. Oui, Paul, pardon.
Je me demande finalement, est-ce que ça ne va pas retarder l'éclatement du PS qui a été annoncé depuis longtemps entre une aile centre-gauche qui serait en fait plus proche de Juppé et de NKM et l'aile gauche qui pourrait rejoindre un gros bloc avec Mélenchon, quoi.
Bah, ça, j'aurais une tendance spontanée à dire c'est les électeurs qui trancheront cette question. C'est le résultat de la présidentielle, elle-même. Effectivement, s'ils font tous un tiers des voix, il va y avoir quelques petits problèmes.
Oui, ça va être compliqué.
Si, par contre, il y en a un qui fait nettement plus que les autres, ben, quelque part, il incarne une capacité de rassemblement. Bon. Mais là, c'est aux électeurs à choisir. C'est pas... J'irai dans les... J'avoue que j'ai un certain mal, enfin si on veut les détailler, j'ai un certain mal à voir en quoi Macron peut incarner d'une façon ou d'une autre la gauche au sens historique, mais bon, je suppose qu'il
le
arrivera
renouveau.
À faire des déclarations.
Bon. Oui, le renouveau, exactement.
Alors il y a le mot renouveau qui revient souvent, il y a aussi le mot rebelle, c'est-à-dire que Macron c'est le candidat rebelle.
On se demande, bon, alors, sans indiscrétion, rebelle à quoi?
Ça c'est fort.
Non, mais...
Alors donc...
Non mais stock oui, alors oui, il faut compter sur les électeurs, parce que c'est pas comme si avant, avec les égaux auxquels on fait face en ce moment là, alors que ce soit du Mélenchon, du Hamon ou du Macron, il n'y a pas un qui va se dire, je sacrifie, je rejoins un tel, ça ne va jamais arriver. Là, avant, on passait, on était dans une espèce de, oui, comment dit-on, on avait un peu un combat, avant le premier tour, il y avait un combat un peu des deux gauches, la gauche plutôt Valls, plutôt, oui, plutôt centre-gauche, centre, plutôt, vers, oui, plutôt vers le centre, versus la gauche plus sociale, ça avait encore du sens. Maintenant, on va se retrouver avec un Hamon, un Mélenchon, et en bon, plus un Macron, mais donc ça n'a plus vraiment de sens, même en termes de différence d'idées, etc., quoi, donc on a... Ça fait vraiment, je pense que pour la démocratie, c'est pas très bon. Ça donne aux Français l'image vraiment qu'on a une bataille d'égo, de gens qui pourraient vraiment être rassemblés sur la même bannière, mais qui, pour des raisons. Bon, de
enfin, parti. Entre ouais. Hamon et.
J'entends Hamon et Mélenchon, oui.
Hamon et Mélenchon,
oui,
bien sûr,
oui.
Pas Macron.
Non, pas Macron, mais oui. Non, mais en tout cas, oui, c'est pas comme si un des trois va lâcher l'affaire.
Non, non.
Mais entre Hamon et Mélenchon, ça n'a même plus aucun sens, juste une bataille d'égo, on a l'impression. Et ça doit pas... Je pense pas que ça amène une très très bonne image non plus, encore une fois, du processus électoral.
Alors donc là, ça c'est une perche pour André, puisque ça montre bien que la présidentielle...
Je lui avais dit de dire ça, évidemment.
Ah, oui. Ouais, la semaine dernière, j'ai fait des petites allusions du même acabit.
Donc la présidentielle, c'est un combat de coq, d'égo en tout cas.
La présidentielle, c'est, comment dirais-je, c'est un jeu binaire. À l'extrême, ce que vous dites pendant la campagne n'a strictement aucune importance. Le problème, c'est de gagner. Une fois que vous avez gagné, les institutions étant ce qu'elles sont, vous faites ce que vous voulez. Absolument. Hein, bon, depuis quelques décennies, on compte plus. Bon, on a sorti une vidéo là, ces temps-ci, qui s'appelle l'horreur présidentielle. On va en faire une tous les 15 jours. Hein.
Très bien.
Alors, l'association lance sa chaîne YouTube.
Oui, tout à fait.
Là, on peut le dire.
Oui.
Sur lequel il y a pas mal de choses déjà, d'ailleurs, pour ceux que cela intéresse. Donc, on va. Cette élection, comment dirais-je, elle n'a en elle-même aucune importance dans les thèmes. Elle est fondée sur la personne.
Oui.
Voilà. Et donc, depuis combien Bon, en tout cas, depuis Mitterrand, ça c'est certain. On a entendu les mêmes slogans. Celui de Mitterrand, c'était la pensée de la droite, garder le pouvoir, mon seul objectif, vous le rendre. Bon, quand on voit les deux septennats de Mitterrand, ça crève pas les yeux. Bon, faut bien dire. Bon. Et puis, bon, mais ce slogan est repris. Moi, j'ai remarqué d'ailleurs qu'il a été repris tel quel, hein, et même en le citant, par Macron. Lorsqu'il est allé dans la Nièvre, comme par hasard, et par Mélenchon. Et c'est pas parce qu'on dit ça que ça a une quelconque importance. C'est des slogans de campagne qui s'arrêtent à la campagne. Donc je pense que ce système en lui-même est vicié par nature. Si on veut vraiment élire le monarque, pour faire bref, ben on n'a pas arrêté de se qualifier de républicain. Il est certain que la question du fonctionnement de la démocratie, elle est posée chaque jour davantage. Il est grand temps de la poser, parce que si on ne la pose pas réellement, il y a un moment, bon, je reprends un thème que j'ai déjà développé je ne sais combien de fois, hein, bonapartisme ou constituante, il y a un moment où on sera obligé d'officialiser le caractère autoritaire du régime. Et si l'autre option, c'est on revient à la démocratie, mais il n'y en a pas d'autre. Entre les deux, c'est du blabla.
Donc là, pour vous, on est en train d'aller petit à petit vers une sorte de régime autoritaire, présidentiel,
bon, on est déjà fort. Assez largement. Bon, je veux dire, le décalage entre les discours de campagne et la réalité du pouvoir, hein, bon, Moi, je suis pas contre qu'on dise des choses. Vous voyez ce qu'on reproche, vous parliez de Hamon, qu'on lui reproche d'être réaliste ou pas. D'abord, qui définit le réalisme, hein, bon. Mais la question est de développer des thèmes. À partir du moment où la seule question de la présidentielle n'est pas de développer des thèmes, d'avoir une influence et d'essayer de les faire progresser, mais d'être élu à tout prix, bon, ben, ce qu'on raconte n'a plus d'importance.
Oui.
Paul ?
Bon, après, je vais me faire l'avocat du diable. On pourrait vous répondre, mais finalement, le problème dans la démocratie actuelle, est-ce que c'est pas aussi que, finalement, les gens revotent toujours pour les mêmes qui les ont trahis systématiquement ?
Ben, là, je m'amuse des fois à dire, il faut penser, parce qu'on oublie toujours, le théorème Bellon. Le théorème Bellon, je vais vous le donner, dans toute élection, il y a toujours un élu.
C'est le premier cours à Sciences Po.
Dans toute élection, il y a toujours un élu. Ce qui veut dire que...
Quasi toujours.
Ils sont forcés de voter sur le panel qu'on leur propose. Ils vont pas inventer les candidats. Hein, il y a pas un choix des candidats par référendum d'initiative citoyenne. Il y a des candidats qui émergent parce qu'ils font partie de certains milieux, parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont des influences, etc. Ça limite énormément. Et non seulement il y a ce truc avec de plus en plus de signatures, parce qu'au départ il y en avait 100, je crois, en 58. Aujourd'hui il y en a combien, 500.
Hein, bon. 500, oui. 500 bon, publics.
Et chaque fois ça augmente. Non seulement il faut ses signatures, non seulement il faut beaucoup d'argent parce que ça coûte très cher, une campagne, mais en plus on a fait une nouvelle loi qui fait que les petits candidats n'ont pas le droit d'avoir la télé autant que les autres. Hein, la loi Irevoas de mai, je crois, de cette année, 24 mai, je crois. Oui, enfin, je ne suis pas très sûr.
Plus que pendant les deux dernières semaines de campagne.
Voilà. Alors, et dans le même temps, on nous dit qu'il faut du renouveau. Or, le renouveau, ce serait justement cela, mais on les empêche de parler. Bon. D'ailleurs, il ne faut pas plaisanter. Alors dire après, les gens, ils choisissent toujours les mêmes. Bah, évidemment, puisqu'on leur propose toujours les mêmes.
Bah, c'est pas dit en même temps. Non, le phénomène Le Pen est là pour contrebalancer un peu ça. Quoi.
Voilà. Ben oui, et c'est ça le danger.
Parce que les gens sont pas...
Le renouveau, il apparaîtra de plus en plus comme étant à l'extrême droite.
C'est ça.
Et puis le problème, en plus, c'est que les gens ne votent toujours que parmi les candidats qui sont susceptibles de gagner, puisqu'on est dans un régime à deux tours, dans un scrutin à deux tours, ce qui fait que... Voter pour un petit candidat, à partir du moment où les sondages n'annoncent pas qu'il a une chance de passer, c'est stratégiquement considéré par beaucoup de gens comme inutile, ce qui est un cercle vicieux, puisqu'évidemment, du coup, personne n'annonce voter pour lui dans les sondages, etc. Ouais. Donc les petits candidats, déjà, n'ont pas d'argent, n'ont pas l'accès aux médias, et en plus, sont coincés par ce scrutin à deux tours. Quoi.
Et comme en plus, le système fait que, une fois que, grâce à la réforme Jospin, les législatives ayant lieu juste après la présidentielle, bon, il y a une espèce de logique qui s'impose, que l'Assemblée soit majoritairement pour le président élu. Donc, d'une certaine façon, on élit pourquoi ? Ben, pour quelqu'un qui a tous les pouvoirs. Voilà. C'est ça, le système actuel.
C'est aussi un système où on subit. On a l'impression que les citoyens subissent, sont dans les calculs de qu'est-ce qui se passe au premier tour, qu'est-ce qui se passe au second tour. On subit beaucoup ce qu'on nous impose. Je pense qu'à un moment, il faut aussi remettre un peu une position morale et dire, ben, mon vote, c'est toi qui vas le mériter. Toi, candidat, tu vas mériter mon vote citoyen. Et tant que t'as pas le minimum de requis moraux qui me sont nécessaires, et ben, en gros, tu peux toujours te le mettre derrière l'oreille. Tu peux attendre, tu n'auras pas mon vote. Et... si on revient un peu à une situation, on leur fait comprendre ça, on fait comprendre ça au monde politique, où les citoyens s'expriment plus dans le sens... Ben... Mais je pense pas que ça passe par un vote d'extrême droite, je veux dire, c'est aussi une attitude, alors ça passe par le vote blanc peut-être, ça passe par des actions politiques ciblées aussi, mais il faut réussir à remettre dans le débat, remettre un peu cette condition de ben, mon vote, il est très précieux, c'est l'expression de mon acceptation morale envers ton futur potentiel mandat. Bah, tant que tu n'as pas ce qui est requis de manière très basique, bah, tu n'auras pas mon vote. Et remettre un peu ça plutôt que de se faire avoir pour le chantage de ah oui, mais si tu ne vas pas pour moi, tu auras machin. C'est insupportable, donc il faut plutôt leur redire bah non, tant que tu n'as pas les fondamentaux moraux, tu n'auras pas mon vote. Et si on arrive à revenir à ça, on aura peut-être une chance de remonter le niveau.
Et c'est vrai que je suis toujours étonné par ce vote par défaut, ce vote utile pour un candidat en fait, qu'on n'aime pas vraiment, mais qui est moins pire que l'alternative. Parce que c'est un raisonnement qui se veut rationnel, pragmatique et un peu cynique. Alors qu'en fait, quand on y pense, si on est vraiment pragmatique et un peu cynique, on va pas voter parce que on n'a jamais vu une élection qui était gagnée à une voix près. Donc finalement, statistiquement, sa propre voix ne sert à rien.
C'est ça.
Donc aller voter, c'est déjà être un peu idéaliste et participer de bonne foi à l'élection. Donc autant voter pour le candidat qui porte le projet qui nous est le plus à cœur.
Oui, mais alors, comme dit André, on sait qu'il y aura toujours un élu à chaque élection. Donc, d'où le...
La présidentielle obéit au théorème Bellon. Malheureusement, c'est peu connu.
D'ailleurs, c'est ça qu'il a fondé. Hein. on peut le dire.
Il y aurait la reconnaissance du vote blanc. Le théorème Bellon, déjà, serait... flancherait.
Mais il y aurait quand même un élu. Sauf... Alors ça deviendrait sans doute intéressant à examiner si quelqu'un ne pouvait être élu que s'il y a eu un taux de participation suffisant. Auquel cas, là, du coup, le vote blanc devient un vote politique important. Hein, c'est le fameux bouquin de Saramago, la lucidité. Hein, dans une commune, 80% des gens votent blanc. On fait quoi? Alors ça, mais c'est pas le cas. Il y a des pays où ça existe. D'ailleurs, même en France, au premier tour des législatives, je crois des cantonales et peut-être des municipales, je me rappelle plus très bien, législatives, je suis sûr, il faut un taux de participation. Sinon, on recommence. Même si quelqu'un a 70%, s'il n'y a pas le taux de participation, il y a un deuxième tour. Donc, on est bien conscient de cette histoire. Enfin, ça ne va pas plus loin que ça.
Mais bon, je pense que la question du vote utile va peut-être arriver un peu à ses limites. Alors, dans les perspectives de second tour, Le Pen-Fillon ou de ce type-là, où il y aura quand même beaucoup de gens, je pense, qui n'iront pas voter du tout.
Ah non, ça c'est sûr. Hein.
Ça, c'est sûr que ça changera un peu les données.
Ça va être assez compliqué pour beaucoup de gens. Aussi.
Petite pause musicale. Et puis, on se retrouve juste après. On est avec l'association pour une constituante.
Entrez, monsieur, dans l'humanité, gagnez la foire aux vanités. Hâtez-vous, préparez vos glandes, bousculez femmes et enfants. Réclamez vos dividendes, faites main basse sur les premiers rangs. Entrez, monsieur, dans l'humanité, les langes noëlées, l'idée fait. Amour de pissotière ou cœur pur à la boutonnière. Montrez-vous en simple appareil, choisissez votre place au soleil. Voyez-vous, j'aimerais mieux pas. Voyez-vous, j'aimerais mieux. L'échelle est mise, les crasses permises, les dents longues, le sourire douillet, laissez vos frères dans la brise. Vous serez sans inconvenant, star tampion, roi de la finance. Entrez-vous dans l'humanité, le genou sur un pitié, aimez en toute perversité, les affamés, les miséreux. Portez la haine dans votre rosaire et dans la bonté, faites carrière. Dans notre belle fraternité, il faut hurler avec les loups ou prendre ses jambes à son cou. La meute est prête, la chasse ouverte, courez, monsieur, à votre perte. Voyez-vous, j'aimerais autant. Voyez-vous, j'aimerais autant. Voyez-vous, j'aimerais autant.
retrouve dans Voix contre oreille sur Aligre FM 93.1. On est ce matin avec l'association pour une constituante, avec son président André Bellon, avec Paul Pescaire et avec Antonin. Donc on en était à deviser sur la présidentielle. On en arrive là, je crois qu'on a bien analysé la situation à la constituante. Hein? Alors André, on rappelle peut-être le constat que vous faites de ce système à bout de souffle. Il faut la seule manière de s'en sortir, c'est de par le haut, c'est de le renouveler, quoi.
Ah non, il y en a une autre, c'est d'accepter d'officialiser l'autoritarisme. Je pense que c'est d'ailleurs l'hypothèse la plus probable. Hein. Je ne pas.
Bah c'est plus facile.
C'est plus facile.
Plus, c'est celle où il y a rien facile. À faire et que c'est porté.
C'est plus facile parce qu'on a déjà les acteurs et on a déjà quasiment la solution clé en main, donc ça rassure. À mon avis, ça ne devrait pas rassurer, mais ça rassure au sens où on sait ce que c'est. On l'identifie.
J'espère
que
ça n'arrive pas, quand même. Les gens ne sont pas...
Bon, toujours le même truc. Moi, j'aime bien répéter ça. A réussi. Il y a pas mal d'autres dans l'histoire. Jésus, par exemple. Ce voilà. n'est pas la comparaison que je préfère, mais... mais... si vous voulez, bonapartisme constituante. C'est-à-dire autoritarisme ou... démocratie. Alors apparemment, on pense que face aux défis, face aux complexités de la situation, le bonapartisme est plus simple, c'est-à-dire on transfère à quelqu'un qui va résoudre les problèmes. Voilà. Et on officialise que le premier qui bouge, il a quelques ennuis. Voilà. Ça, à mon avis, c'est une illusion, mais dans l'histoire de France, ça a été une option. C'est pour ça que bonapartisme constituante, c'est deux mots qui rythment l'histoire de France. Hein. Bonapartisme, il y a eu deux empires quand même, puis les rois bien entendu avant, et puis constituante, il y en a eu six, sauf erreur de ma part. Donc constituante, on remet les choses à plat et on élit des citoyens pour débattre de l'organisation la plus démocratique possible compte tenu des circonstances. Voilà. Je crois que cette solution est en apparence plus utopique, en apparence moins crédible. En fait, je crois qu'elle est la plus réaliste, au contraire. Voilà.
On a l'impression que c'est pas. Enfin, il y a peu de chances que ça se produise, vu la configuration actuelle.
C'est un mouvement qu'il faut amener par la base. Il faut essayer de réinsérer les citoyens dans une démarche active et le faire au niveau des communes, au niveau rural peut-être, au niveau très local.
Vous savez, en 1787, si vous aviez dit qu'il allait y avoir une assemblée constituante. Alors que la majorité des acteurs se battaient pour savoir qui serait le ministre le plus adapté auprès de Louis XVI, hein, comme tous ceux qui veulent passer par la présidentielle pour rénover, c'est pas vrai, la présidentielle n'est pas faite pour ça, bon voilà, c'est comme ça.
Et Mélenchon, donc, qui dit que s'il est élu, il va tout remettre à plat.
Écoutez, moi je ne juge pas de la crédibilité de ce que racontent les candidats, si on se réfère à l'histoire il y aurait beaucoup à dire, mais je pense que la constituante ne peut pas émerger de la présidentielle. Et entre autres parce que la présidentielle n'est pas faite pour ça. Pour être élu, il faut avoir un programme, donc on est élu sur la base de ce programme, hein, qui comporte un certain nombre de choses. Alors, dans votre logique, il faudrait que le candidat ne porte qu'un sujet, la constituante. Je vois aucun candidat qui dit ça. Hein. Et si un candidat qui porte ce sujet, on va dire que l'influence de la constituante s'est limitée à son résultat. Ce qui est quand même un problème. Nous, on dit ça... Nous, on est en dehors de ce schéma-là. Propose à la constituante comme une alternative au système et donc à la présidentielle. Voilà.
Alors, néanmoins, bon, j'insiste, la seule chance, là, à court terme, que ça se produise, ça serait Mélenchon est élu, hein, on peut toujours faire des films, et voilà, il dit, bon, ben, voilà, je... j'abdique et je mets en place un processus constituant. C'est une hypothèse qui devrait vous réjouir.
Ah, pas du tout. Non, vraiment pas du tout, parce que on considère que la constituante ne peut émerger que de réellement quelque chose qui émane de l'ensemble des citoyens, comme ça a toujours été le cas, hein, toutes les constituantes.
Il faut que ça vienne du peuple. On ne peut pas imposer de l'extérieur un grand changement. On ne peut pas donner la liberté, on ne peut pas forcer la liberté sur les gens. Quoi. Il faut que ça vienne à un moment spontanément.
Non, et puis, de toute façon, on n'octroie pas une charte, ça a un côté Louis XVIII. Elle se construit à partir, sans doute le mieux, c'est à partir de l'élément communal, parce que c'est là qu'il y a encore une vie démocratique réelle. Mais il ne s'agit pas non plus de faire les barricades, la révolution, je ne sais pas trop quoi. Il s'agit de reprendre les citoyens là où ils sont, dans une situation où, un, il n'y a plus de société cohérente. Il y a de plus en plus une société qui se construit en dehors même du système. On voit de plus en plus ça. D'ailleurs, on fait une réunion à Montreuil ce week-end avec une vingtaine d'associations qui toutes cherchent dans ce sens-là. Et c'est là qu'il y a la solution. C'est dans cette espèce d'échange de connaissances réciproques et de crédibilisation par le fait même qu'on se rencontre et qu'on peut échanger. Voilà. Et pas par le grand truc où on va avoir quelqu'un qui doit être élu, qui vraisemblablement ne le sera pas d'ailleurs. Donc, c'est pas la question.
Oui, donc c'est une réappropriation citoyenne.
Oui, pour un processus citoyen. Et moi, ce qui me pose problème, c'est que des fois, je me dis, mais est-ce qu'on n'a pas des problèmes institutionnels très, très profonds ? En gros, on a tous, dès qu'on a un mouvement citoyen qui va se lancer, il faut vraiment qu'on ait des contrepoids ou des contrebalanciers pour. Pour empêcher l'émergence d'une espèce, l'émergence des égos, des gens qui veulent tout de suite prendre le pouvoir, avoir l'opportunité d'avoir un énorme pouvoir, etc. Peut-être qu'il faudrait dans notre démocratie avoir plus de contre-pouvoirs ou de moyens de savoir que même si on souhaite ce truc-là, ça serait même pas possible. D'avoir un peu plus de contrepoids qui ferait que, même l'accès à une certaine fonction serait tellement limité de base, c'est-à-dire quelque chose qui ne serait pas reconduisible, ou avec d'autres conditions qui feraient que, on pourrait limiter un peu les espèces de velléités un petit peu autoritaires, ou les velléités de certaines personnes qui vont courir après la gloire dans le monde politique. Il faudrait peut-être qu'on recommence à zéro et qu'on empêche ces comportements de trop prospérer. Mais je ne sais pas à quel point on pourrait apporter des solutions à ça.
Alors, je rajoute à ça que, dans la période actuelle, on raisonne sur la démocratie, c'est pour ça qu'on met souvent dans nos textes « face aux défis ». C'est une phrase assez systématique. On raisonne comme si la démocratie, c'était un truc très gentil. « Ah tiens, si aujourd'hui on était démocrate, ça serait vachement sympa. Ouais. » La démocratie, c'est aussi une manière de construire un socle commun, une volonté commune face aux défis. Et c'est pas la volonté de n'importe qui. C'est pas les gens qui passent par là. Non, c'est il y a un peuple et ça se passe en France. Voilà. Et cette démocratie, elle est donc censée donner au pays et à son peuple les moyens de faire face à ces défis. En particulier les défis géopolitiques. On a un monde qui change complètement en ce moment. Et on fait comme si c'est tout resté comme avant. Alors, l'Union européenne, ouais, c'est vachement sympa, ça va continuer comme ça, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. On n'est pas seulement soumis à ce qui se passe en ce moment. On est acteur. Donc, qu'est-ce qu'on propose ? Et si on veut reproposer, ça veut dire reparler, par exemple, des traités, inévitablement, un jour ou l'autre. Il faut bien qu'il y ait un peuple pour en parler. Ou alors un dictateur. Je ne vous cacherai pas que je préfère la première solution.
De ce point de vue-là, oui, excuse-moi.
Alors, j'allais revenir sur le fait que la chaîne YouTube, lancée par l'association pour une constituante, une première vidéo, sur le titre, vous y allez fort, c'est l'horreur présidentielle, carrément.
Je trouve que ça s'adapte très bien, alors là, pour le coup.
Alors ça dure 2 minutes, hein, et c'est une prise de parole d'André Bellon.
Je vous rassure, la suivante, ça sera pas moi.
On va essayer de faire tourner.
Ça va tourner.
Bon, d'ailleurs, bah, il y aura un tournage.
Parce que sinon, ça serait l'autoritarisme présidentiel.
Je qu'on dénonce.
Ah, mais André, c'est le Bonaparte de la pute.
Le Bonaparte de la pute, c'est joli d'ailleurs. C'est là que j'ai un théorème.
Alors on écoute, ça dure 2 minutes, on écoute la vidéo l'horreur présidentielle.
Bonjour. Et si nous parlions un petit peu de l'élection présidentielle? La présidentielle, soyons-en conscients, ne peut pas apporter la solution à nos problèmes. Elle est le problème. Elle est de plus en plus une horreur, fort éloignée des principes démocratiques. Reconstituer la démocratie impose de sortir de ce jeu et d'élire sans tarder une assemblée constituante en France. Souveraine sous le contrôle de tous les citoyens, elle sera maîtresse de la redéfinition de notre vie publique. La France a besoin de retrouver son propre peuple, titulaire de la souveraineté. Lui seul est capable de faire face aux défis. C'est ainsi que le citoyen pourra enfin ne plus être infantilisé par des débats artificiels qui ignorent les vrais enjeux. Depuis 1965, date de la première élection présidentielle au suffrage universel, on ne compte plus les candidats qui ont déclaré vouloir redonner le pouvoir au peuple et qui font ce qu'ils veulent une fois élus. Pourquoi serait-ce différent aujourd'hui alors que le système présidentiel est le même? Une fois de plus, ces porte-paroles autoproclamées vous demandent de vous rallier à leur personne. Pourquoi serait-il différent de tous ceux qui les ont précédés, avec les mêmes trémolos dans la voix et les mêmes effets de tribune? Nous sommes le peuple, et en tant que tel, souverain de notre propre destin. Appelons donc à remplacer en 2017 l'élection présidentielle par l'élection d'une assemblée constituante.
Voilà, c'était donc la vidéo l'horreur présidentielle numéro 1, et avec d'autres à suivre donc sur la chaîne YouTube de l'association pour une constituante.
En théorie, la deuxième sera sur les médias par rapport à la présidentielle et sera Anne-Cécile Robert.
Voilà.
Qui est donc, faut préciser, mais qui bosse au Monde Diplo.
Voilà, Anne-Cécile Robert, qui est souvent venue à ce micro et qui est membre de l'association pour une constituante. Alors, moi, je vais vous quitter exceptionnellement, mais je laisse à Antonin les clés.
C'est le bonapartisme, encore une fois.
Et donc, je vais poursuivre peut-être...
Oui, on va continuer à parler de l'actu de l'asso. Et André, tu vas pouvoir nous raconter un peu ce qui va se passer ce samedi à Montreuil. On espère que les gens viendront nombreux. Et...
Ça, on l'espère tous.
On espère toujours. Et on va voir un peu ce qui s'y passe.
Alors, c'est vrai que pour notre association, ça n'a rien à voir avec l'après-midi. On a séparé la journée en deux parties. Le matin, on réunit nos cercles.
Ouais.
Donc, il y en a une vingtaine à peu près qui viendront. Donc, on fait ce qu'on appelle le comité de coordination des cercles.
Oui, non, ce sont les cercles
avec
qui sont sur tout le territoire français. Donc.
Pratiquement tous les cercles seront là. Il en manque un pour des raisons de santé.
Ouais, bon.
Bon. Mais bon, donc, c'est pas grave. Enfin, si, pour lui, c'est grave, évidemment, mais pour le comité, non. Donc, on fait ça. C'est une bonne chose, d'ailleurs, puisque nous fonctionnons sur une base, comme chacun le sait, horizontale et non pas verticale, justement. C'est pas...
Ouais.
C'est pas un mouvement bonapartiste, justement. Bon. Et l'après-midi, donc, il y a une rencontre avec au moins une vingtaine d'associations. Il se peut que d'autres s'y rejoignent parce que, bon, au fur et à mesure que certains ont connu l'existence de cette rencontre, ils ont dit, mais tiens, ça m'intéresserait. Mais bon, on les avait pas contactés ou on l'avait pas su avant, quoi. C'est tout.
C'est
pas...
Oui, alors c'est plutôt des assos...
C'est pour ça que sur l'affiche, d'ailleurs, on a mis des points de suspension après.
Ah oui, d'accord. Des assos locales, plutôt
ou... Oui, alors c'est au 40 Avenue de la Résistance, à Montreuil,
ouais.
Sur métro Quai de Chaveau, Croix de Chavaux, c'est à 100 mètres du métro, hein, c'est pas très loin. L'idée, c'est pas du tout, parce que ça aussi c'est un défaut qui court pas mal en ce moment, c'est pas du tout de donner une solution clé en main, voilà, nous sommes l'autre société qui a son mode de fonctionnement, sa constitution, alors parce que c'est la nouvelle mode, on fait des constitutions.
Bon. Ouais.
Pour arriver à la faire, il faut tout un processus qui ferait que, à un moment déterminé, les citoyens, c'est-à-dire le peuple, quoi, a envie de la faire. Donc, dans l'idée de constituante, chez nous, la constituante, c'est bien sûr, c'est un objectif, c'est surtout un symbole. C'est pas d'y arriver demain. Bon, quand on dit remplacer la présidentielle par l'élection d'une constituante, on est conscient que la probabilité de ce remplacement est faible.
Non, mais c'est vrai que ça commence par du dialogue bon, citoyen. Donc
voilà. Il n'empêche que le simple fait de poser la question de ce remplacement dit aux citoyens, il est possible de raisonner et de penser autrement.
Ce qui est un peu aberrant, voilà. Parce qu'on a l'impression qu'on rappelle l'histoire aux Français, mais l'histoire
se recrée toujours, c'est toujours ça, la bon. Même. Bon. Mais c'est très Emmanuel Kant, ça, oser penser. Voilà. Ça fait bien de dire ça.
Ah, c'est très bien.
Et il faut oser penser. Il faut sortir des obligations. Toute la société actuelle est fondée sur des obligations. Et alors, du coup, on croit trouver les libertés en mangeant différemment parce qu'on a vu passer une émission, on vous dit vous pouvez manger différemment ou je sais pas trop quoi. Ce qui n'est pas antipathique d'ailleurs, mais ça ne recrée pas une société différente. Une société différente, c'est toute la question de la liberté, c'est la question de la libération et de la reconstruction du citoyen. Donc c'est un problème très complexe, oui, comme disaient pas mal de philosophes d'ailleurs, il est plus facile d'être esclave que d'être libre.
Oui, bien sûr.
En même temps, le but de l'humanité, c'est pas d'être esclave. Bon, voilà. Donc ce choix-là, il faut arriver à l'assumer, il faut arriver... Et on ne le fera qu'en sortant des contraintes qu'on nous impose, et la présidentielle est une de ces contraintes, oui. Aujourd'hui. Bon, peut-être qu'au départ, elle a été autre chose, peut-être, parce que c'est des circonstances différentes, guerre d'Algérie, machin, bon, ça sans doute. Mais enfin, on n'en est plus là.
Hein. Oui, bien sûr.
Et puis en plus, ce n'est plus du tout les mêmes institutions... Quand on dit 6e République, on y est déjà dans la 6e. Hein.
Oui.
Moi, il m'arrive de dire, passons à la 7e, ce sera mieux.
Hein. Alors, en parlant de choix qu'il faut assumer, de présidentielle, etc., moi, ce qui m'a fasciné dans la semaine dernière, c'était tout ce qui s'est passé aux États-Unis. Alors, c'est vrai que je suis à fond, pas mal dans l'actu américaine. Alors, on voit vraiment la gauche là-bas, ou la gauche, ou les démocrates, s'écroulent complètement. Ils sont hors de contrôle, ils n'arrivent même plus à accepter le processus démocratique. On tombe sur des stars, mais même des choses assez scandaleuses, genre même un... j'ai oublié son nom, mais une ancienne star du mouvement des droits civiques qui commence à dire à l'antenne américaine que l'élection de Trump...
Johnson,
oui.
Je sais plus.
Un homme assez âgé, mais donc d'une prestance historique, mais enfin, qui commence à raconter que l'élection n'est pas valide, etc. Et on tombe dans des schémas assez aberrants où une espèce de conglomérat de gens, alors un mélange d'Hollywood, de gens de gauche, de figures, ne comprennent plus du tout ce qui se passe, ont décroché complètement apparemment avec le peuple, et sont dans une espèce de refus de Trump, qui, je pense, ne peut qu'encourager encore plus le soutien qui va lui être accordé.
Sous forme de boutade, j'avais fait remarquer qu'il y a des animaux hein, qui symbolisent les deux grands partis. Hein. Je crois que c'est... L'âne pour les démocrates et l'éléphant pour les républicains.
Oui.
Ben, un éléphant, ça trompe énormément, donc voilà. Tout ça est très logique. Donc,
non, mais Trump, en plus, bon. Les premiers trucs qu'il fait...
Cela étant, je comprends. Et en même temps, je pense qu'il y a une interprétation compliquée de ce qui se passe. On a l'impression que tout un milieu démocrate... Enfin, le Parti démocrate américain, hein, je reprends les termes tels qu'ils sont là-bas, est complètement sidéré, tétanisé par un résultat, et dit « nous ne voulons pas l'accepter ». Bon. Quand on dit ça, de deux choses l'une. Ou bien on dit « ce système, c'est comme chez nous d'ailleurs, ce système est complètement absurde, il faut le changer », ou bien on accepte le résultat parce que c'est le système. Ouais. C'est comme ça. Bon, accessoirement pour les démocrates, ils pourraient peut-être se poser des questions sur la manière dont Bernie Sanders a été éliminé, qui ne me semble pas avoir été très démocratique. Ah, non plus. Non. Bon, non, mais il y a ça aussi. Et c'est pas sûr que Bernie Sanders, lui, n'aurait pas été élu, par parenthèse.
Bon, non, non,
j'en sais rien, mais
bien sûr, non, c'est vrai.
Je vois pas pourquoi, a priori, on élimine tout ce qui sort de l'épure, alors que l'histoire, l'histoire, c'est justement la capacité à des moments clés, charnières, les grands tournants historiques, de sortir de l'épure.
Mais les démocrates sont vraiment en mauvais état, oui.
On peut pas à la fois dire on veut changer, on veut pas changer. Bon, la question, c'est on change comment, avec qui? Voilà. Donc, s'ils veulent changer le système, ce qui est après tout leur droit, ben, il faut le dire. Mais dans le cas du système, Trump, il a été élu, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça.
Oui, un truc intéressant que j'ai vu, c'est que les démocrates s'écroulent complètement. Il y a un acteur d'Hollywood qui a fait un tweet, alors le tweet, c'est le truc à la mode, qui disait « Je ne comprends pas pourquoi on me reproche dans une bulle, je ne suis pas dans une bulle à Hollywood, je suis entouré de gens très divers, de diverses couleurs, etc. » C'est le mec qui est dans la campagne du Kansas ou je sais pas quoi, qui lui est dans sa bulle. Il a une incompréhension totale à comprendre le principe de la bulle d'argent, de la bulle culturelle. Et ils sont qu'ils s'enfoncent encore plus dans leur truc de stigmatisation culturelle, potentiellement du rural et du travailleur.
Et ce truc... C'est comme ça qu'on arrive au fascisme dans certains pays, parce que justement, excusez-moi cette expression, ça va être vulgaire, mais au moins ça fera comprendre. Apprendre les gens pour des cons, un jour la coalition des cons, elle est majoritaire. Bon, c'est comme ça.
Exactement, oui.
Bon, c'est idiot, mais c'est comme ça. Et on ne peut pas continuer à raisonner comme ça, c'est pas vrai. Il y a toute une partie de la société qui ne veut plus accepter ce qui existe. Bon. Alors, ou bien on lui répond, vous êtes des abrutis, vous ne comprenez rien, ce qu'on dit depuis des années. Hein. Ou bien, on cherche à dire, ben, il faut y répondre, donc il y a des changements nécessaires à faire, et en particulier, d'ailleurs, dans la direction politique du pays. Hein. Quand même, comment dirais-je, assez univoque. Hein. Ils se ressemblent quand même beaucoup. Bon. Donc, ce que je citais sous forme de boutade tout à l'heure, enfin, Interlimane, Kouchner, tout ce pauvre Macron, c'est une caricature. Enfin.
Non, la démocratie, c'est ça, c'est du conflit entre des forces plutôt de gauche libérale et plutôt contre les forces plutôt conservatives, et chacune a ses défauts, mais c'est leur confrontation qui fait grandir un peu et qui fait avancer la société. On a l'impression qu'aujourd'hui, on n'a plus ça, que même la droite française ne fait pas son travail, vu qu'ils sont tous libéraux. Moi, j'espérerais de la droite française, des fois, qu'elle soit plus conservatrice, et qu'au moins, et qu'elle ramène au moins dans le débat démocratique ses billes, et qu'elle puisse nous dire, bon, on arrête les bêtises à l'école, et qu'au moins qu'elle recadre la gauche sur les trucs stupides. Et moi, quand j'attends de la droite qu'elle remette plus d'histoire, plus de grammaire, plus de choses, à l'école primaire, pour être en plus, bon, on arrête les bêtises, il faut des enfants, plus patriotes, machin. Un truc un peu conservateur comme ça. Moi, j'attends de ça, deux, pour compenser tout le n'importe quoi qu'on fait à l'éducation nationale.
Ma fille est institutrice, elle dit exactement la même chose.
Oui, j'attendrais ça deux, mais qu'est-ce que vous
voulez? Je commence à connaître ce type.
C'est ça, c'est insupportable, parce que même la droite, on nous fait quoi? Bon, on va quand même virer des profs et on va ruiner l'école encore plus. On peut compter sur personne, c'est insupportable. Genre même les conservateurs font plus leur boulot, la démocratie
il y a, va il y a dans la direction politique, gauche comme droite, depuis des années. Hein. Et effectivement, la primaire socialiste a été un peu en rupture par rapport à ça. Même si, bon, c'est vrai que pour l'instant, elle est relativement marginale. Mais bon, c'est toujours les epsilon qui font l'histoire, hein, de toute façon. Mais il y a, depuis des années, l'idée du consensus. Au fond... À droite et à gauche, ils sont d'accord sur les problèmes essentiels, en particulier sur l'hétéroéconomique, sur une vision d'un monde, un village planétaire, etc. etc. Et de ce fait, les débats portent sur des questions qui ne sont pas obligatoirement mineures, mais qui ne sont pas celles qui sont considérées comme majeures par la majorité des citoyens. Bon, c'est comme ça.
Ouais.
Bon. Donc, il y a un moment, il faut sortir de ça. Et quelque part, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la contestation de ça est venue des États-Unis, c'est-à-dire de la puissance dominante.
Ouais.
Ce qui, quand on y réfléchit, n'est pas si illogique.
C'est pas si absurde, oui.
C'est comme ça. La France, honnêtement, l'originalité française, bon, disons dans le quinquennat qui vient de s'achever, bon, enfin, le précédent, c'est pas beaucoup mieux, Bon, on la cherche, quoi. Mmh. Elle porte sur les détails.
Bah, ouais, c'est vrai qu'on pourrait s'inspirer un peu, parce que Trump, bon, voilà, il est qu'il est, ok, un abruti, fini, très bien. Mais bon, il a quand même représenté, c'est le candidat. Il y avait un candidat tout donné par les médias, par les puissances financières. Tout le monde voulait le candidat, ou la candidate en l'occurrence.
Oui, oui,
il y avait tout le monde le voulait. Et on a quand même pu montrer, il y a eu un processus démocratique assez beau dans le fait que non, on a refusé cette personne. On a mis un autre type.
Alors, il y a eu la même chose en France.
J'aurais préféré que ce soit un autre que ce milliardaire un peu aberrant.
En 2005, on a eu la même chose en France.
Oui, c'est magnifique.
On a eu tous les médias, tout. Mm. Et les forces politiques essentielles étaient pour le oui au référendum.
Ouais.
Non, pour le traité constitutionnel.
C'est vrai que le phénomène Trump au moins a été.
Et ça a été non de façon, alors là, parfaitement significative.
Ouais.
Bon. Donc, quand on nous dit les Français n'aiment pas la politique, si, quand il y a un véritable enjeu, ils aiment. Enfin, ils aiment. Disons, ils se mobilisent.
Ils participent, bon, oui.
Voilà, ils y sont allés. Et 75% de votants et 56% de oui, je crois, ou quelque chose comme ça. Bon. Mais si c'est des enjeux qu'on ne comprend pas, ou qui apparaissent finalement assez marginaux, bah, pourquoi diable se déplacer? Et c'est pas en disant on va rendre le vote obligatoire, que je trouve scandaleux de la part d'ailleurs de ceux qui le proposent, parce qu'ils sont les derniers à avoir le droit de dire ça. Hein, c'est pas comme ça qu'on résoudra le problème. Il y a incontestablement un fossé, ce fossé se comblera pas parce qu'on le claquera des doigts, et surtout parce qu'on maintiendra les mêmes dirigeants qui claqueront des doigts. Voilà.
Enfin, même Trump, je pense qu'on peut quand même le comparer même au référendum de 2005 aussi, ouais. Parce que, enfin, je veux dire, Antoine, tu disais que c'était un abruti fini.
Non, je suis un peu dur. Mais oui.
Je suis.
Non, je parle de.
C'est pas un abruti fini, pardon. J'étais dur, mais bon, un style grandiloquent.
Effectivement, je pense que les Américains ont voté pour lui pour une bonne partie parce que dans son style un peu outrancier, il pourfendait le politiquement correct qui était vraiment le signe de l'élite dont le peuple avait ras-le-bol. Mais en plus, je pense que quand même, il proposait un programme politique qui était différent et qui a séduit une partie du peuple américain. Un truc un peu plus protectionniste, isolationniste.
Oh, je suis assez d'accord. Moi, j'étais content qu'on arrive enfin à détruire cette politique, enfin, ce mouvement du politiquement correct. Le problème, c'est qu'il est un peu mélange le politiquement incorrect et juste être un peu un provocateur stupide.
Oui, c'est un homme de médias quand même.
Oui, c'est ça. Donc, on peut être politiquement incorrect.
Ses premiers actes vont dans ce sens. Il a, paraît-il, signé la renonciation au traité transpacifique.
Exactement.
C'est quand même un truc énorme.
Renégociation de tous les traités, ça c'est très, très beau. Oui.
Et quand on voit que c'est la Chine qui va devenir le champion du libre-échange, bon, c'est, oui. Quelque part c'est rigolo, mais c'est pas vraiment rigolo.
Oui, c'est ça. Il va même renégocier l'ALENA, apparemment.
Oui, apparemment.
Donc
oui.
Le traité avec le Canada et le Mexique.
Oui, c'est ça.
C'est ça, ouais.
Donc, ouais. C'est vrai que ça, c'était un des premiers actes qu'il a mis en place.
Non, on va arriver à une situation absurde où on va être le seul pays, ou alors l'Union Européenne, encore que, faut voir comment vont réagir les autres, qui va être sur la ligne qui était les États-Unis, qui avait été imposée par les États-Unis. C'est cocasse.
Ouais, non, c'est un
historiquement, c'est rigolo.
Ouais, un retournement historique complètement.
Et finalement, pour les européistes, ce serait peut-être même une chance, parce qu'il n'y aura plus le chaperon américain, et peut-être que ceux qui veulent construire l'Union Européenne devront vraiment le faire. Par exemple, créer une défense européenne sans se reposer sur l'OTAN.
Cela étant, je ne me prétends pas être un spécialiste de l'Europe de l'Est, mais enfin, je l'ai un peu connu quand je présidais la Commission des Affaires étrangères. Les pays dits de l'Est, c'est-à-dire ceux qui étaient au-delà du rideau de fer, ils ont adhéré à l'Union européenne pour être sous le parapluie américain ou pour être dans l'Union européenne?
Ouais, ça, c'est une bonne question. Ouais.
Moi, je crois que c'est plutôt la première solution.
Ouais.
Et de ce fait, l'Union européenne sans les Américains, je ne suis pas sûr que ça les intéresse.
On va voir si ça nous mène à un éclatement de l'Union européenne prochainement ou pas, mais il faudra voir.
Le Brexit, c'est pareil, tout le monde disait c'est pas possible. Si, c'est possible.
Et pareil, le Brexit, ça a été encore une fois un mouvement de l'Angleterre, la population ouvrière rurale.
Moi, je dois dire, personnellement, c'est peut-être à mes origines plutôt, je vais dire prolo, non, mais modeste en tout cas. Moi, j'en ai un peu marre d'entendre traiter de crétins ceux qui ne sont pas dans la ligne. Ça m'insupporte.
Non, pareil.
Hein, d'autant que j'ai connu des tas de gens bien huppés dans la classe dirigeante qui étaient des parfaits crétins.
Oui, ça continue toujours.
Bien dire les choses comme elles sont. Donc, je ne fais pas de la démagogie, enfin si, j'en fais un peu, mais dans des limites raisonnables. Il faut arrêter ce discours-là. Hein? La vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que ce pays, la France, est capable de retrouver ses racines humanistes? Et cette question-là, elle se pose dans des termes assez simples. Hein, moi, je reprends les phrases des grands humanistes. Hein, Montaigne, tout homme porte en soi toute l'humaine condition. Il n'y a pas le crétin et le génie. Non, tout homme porte en soi toute l'humaine condition. Il faut repartir de là.
Il faut partir de là, il faut refaire.
Alors, l'histoire, les gens, ils ne comprennent pas pourquoi ils votent. Les gens, ils ne savent pas la veille s'ils vont voter ou pas, etc. Donc, arrêtons le suffrage universel, faisons un tirage au sort moyennant quoi, faisons les diriger par des experts qui... Bon, ça va...
On a déjà les experts de Bruxelles, on va se passer de...
Les experts, ils sont formatés aussi.
Hein, bien sûr. Mais bon, pour refaire tout ça et revenir à l'humanisme, le seul truc, c'est de recadrer l'éducation. C'est ça le problème. C'est le seul.
Mais oui, c'est fondamental.
Moi, c'est le seul. C'est la seule
politique. Absolument fondamental. Et l'école n'est pas faite. Bien sûr qu'elle est faite pour permettre d'avoir un emploi, une activité sociale. Ça, c'est clair. Mais elle n'est pas faite que pour ça. Elle est faite pour être citoyen, c'est-à-dire pour s'intégrer dans la communauté nationale.
Oui, non, il y a une partie utilitariste, mais il faut qu'elle arrive plus tard.
Si on oublie ça, mais bon, je disais les experts, alors je citais Montaigne, mais citons-le encore, pour ceux qui visitent la tour Montaigne, juste à côté de Bordeaux. Hein,
bon, oui.
Parce qu'il était maire de Bordeaux, je crois.
Il était maire de Bordeaux pendant pas mal d'années.
Il y a dans la tour Montaigne, qui est la seule chose qui reste, son château, le reste a brûlé, je crois. Il y a, dans son bureau, il y a des poutres au plafond, et sur ces poutres, il avait l'habitude de faire peindre des phrases. Bon. En général, il tirait de la Bible parce que c'était un peu une référence à l'époque. Il y en a une qui est assez extraordinaire, c'est « Malheur à vous qui vous pensez sage ». Je pense qu'on ferait bien la méditer, celle-là.
Alors, on va conclure sur ces mots. Merci beaucoup, André. Merci, Paul.
Merci.
On se tient tous prêts pour le grand débat ce soir, un débat de qualité sur les primaires socialistes. Et d'ici là, on va se retrouver la semaine prochaine. Je pense qu'on sera avec Michel, donc il sera de retour. Et on va retrouver sûrement une petite équipe de chroniqueurs. J'espère que Paul, vous serez avec nous. Et voilà. Donc je dis merci à Adrien. Et on se retrouve mercredi prochain.
La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique.
www.pourunconstituante.fr